France Inter.
Sur France Inter, il est 13h. Le 13-14, Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire du 13-14. Notre jeunesse a soif d'engagement et elle est prête à se lever pour la patrie. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a justifié tout à l'heure la création d'un nouveau service militaire volontaire. Il va durer 10 mois, comme une année de césure, dit le chef de l'État. Et dans les bases militaires, on se prépare déjà à l'arrivée des futurs recrues. Reportage à suivre. Des détenus qui s'évadent en sciant les barreaux de leurs cellules. On dirait le scénario d'un vieux film, mais c'est bien arrivé la nuit dernière à la maison d'arrêt de Dijon. On ira sur place. On ira aussi en Turquie où le pape Léon XIV est arrivé tout à l'heure pour son tout premier déplacement à l'étranger. Les députés unanimes, ça n'arrive pas si souvent, surtout en ces temps de bataille budgétaire. Ils se sont prononcés contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur. On ira à l'Assemblée nationale. Et puis en Charente, où le ministre de l'Éducation est venu écouter les inquiétudes des élus face à la disparition des écoles rurales.
Notre commune a déjà perdu tous les commerces. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup, mais on a tout perdu. C'était notre école qui était un peu le fleuron de la commune. Et puis là, on la perd. Je le déplore.
Reportage à suivre dans la petite commune de Binzac. À 13h30, on parlera du film Inside Gaza, à voir sur Arte.tv, qui raconte le travail des journalistes palestiniens pour documenter la guerre dans des conditions évidemment très difficiles. La réalisatrice est avec nous. Et vos questions sont les bienvenues. 01 45 24 7000. Et puis le prix Goncourt des lycéens vient tout juste d'être décerné. Bonjour Iliana Amor-Youssef.
Bonjour.
Vous nous apprenez le nom du lauréat, ou plutôt de la lauréate.
Oui, le prix Goncourt des lycéens 2025 a été attribué à Natacha Apana pour La nuit au cœur, triple histoire de féminicide, histoire vraie. Et pour ce récit enquête, Apana a déjà obtenu les prix Femina et Renaudot des lycéens. Et
on vous retrouve tout à l'heure, Iliana, pour plus de détails. Voilà pour le programme. C'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Voilà plusieurs mois qu'il prépare l'opinion publique à cette annonce et les propos du chef d'état-major des armées la semaine dernière. Parlant d'une France qui doit accepter de perdre des enfants, sont venus abonder dans son sens. Pour éviter le danger, dit Emmanuel Macron, il faut s'y préparer. D'où la création dès l'été prochain d'un nouveau service national volontaire. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
En direct de la base de Vars en Isère, qui abrite la 25e brigade d'infanterie de montagne. Et c'est là que le chef de l'État est venu faire son annonce tout à l'heure.
Oui, ce service national purement militaire dès l'été prochain, nouveau dispositif annoncé au cœur de cette vaste caserne ici à Vars au pied des montagnes, devant les troupes de chasseurs alpins avec leur uniforme blanc et des dizaines de jeunes services, uniquement basé donc sur le volontariat de cette jeunesse, comme l'a détaillé Emmanuel Macron.
Ils serviront sous statut militaire, seront dotés d'un uniforme, d'une solde, d'un équipement.
La cible, les jeunes hommes et femmes de 18 et 19 ans pour un service qui va durer 10 mois partagé en deux étapes.
Nos jeunes du service national commenceront par une formation initiale d'un mois. Ils acquerront l'esprit de discipline, se formeront au maniement des armes, à la marche au pas, au chant. Nos jeunes du service national seront ensuite affectés durant 9 mois. Au sein d'une unité militaire.
3000 jeunes dès l'été prochain, un objectif affiché de 50 000 en 2035 pour un coût évalué à 2 milliards d'euros et des missions clairement définies.
Nos jeunes du service national participeront à toutes les missions, de sentinelles à l'assistance aux populations, à tous les postes, du terrain à l'état-major. Nos jeunes, je le dis avec clarté, serviront sur le territoire national et uniquement sur le territoire national.
La seule façon d'éviter le danger, c'est de s'y préparer, a conclu le chef de l'État. Voilà l'ambition de cette armée régénérée, assume le président, avec une jeunesse formée et sélectionnée.
Merci Jérôme Val en direct de la base de Vars en Isère. Grâce aux moyens techniques de Raymond Albouy, ces jeunes volontaires donc pourront être envoyés un peu partout en France et uniquement en France, a donc précisé Emmanuel Macron, notamment sur la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay en région parisienne. Vous avez pu vous rendre Thomas Vinclair et où l'on se prépare déjà à accueillir les futurs recrues.
Ces jeunes pourront prendre exemple sur le parcours du sergent Marcel. Avant d'atterrir sur la base aérienne, il a suivi une première formation.
On apprend vraiment à être un bon combattant.
Un mois d'entraînement intense, c'est ce qui attend les volontaires. Pour le fusilier parachutiste, ça a duré un an.
On va apprendre toutes les techniques de combat, toutes les techniques de tir, toutes les techniques d'autodéfense pour devenir à 100% opérationnel une fois arrivé sur notre lieu d'affectation.
Il doit désormais protéger sa base, les hommes, les aéronefs, face aux intrusions, avec une nouvelle menace, celle des drones.
Au vu de la conjoncture actuelle, on n'est pas sans savoir que la menace drone est plus qu'omniprésente, que ce soit sur le territoire national, mais aussi international. On est capable de détecter, dissuader et intervenir si la pérennité de la base aérienne est remise en cause.
L'armée évolue, hein, les générations changent.
Les nouvelles recrues de la base sont formées par le lieutenant Aurélien, un militaire qui a vu se transformer l'institution, de quoi attirer davantage, selon lui.
On a ce lien armée-famille qui s'est créé, qui se développe de plus en plus. Les moyens de communication ont évolué, ce qui permet maintenant, quand on est en mission ou autre, de pouvoir communiquer plus facilement avec sa famille, qui permet d'intégrer de plus en plus la famille dans l'armée.
Le service national qui aura un objectif, atteindre les 50 000 volontaires d'ici à 2035.
Reportage signé Thomas Vinclair. Et ce nouveau service militaire est donc censé mieux préparer la France au risque d'un conflit dans les prochaines années, notamment avec la Russie. La guerre en Ukraine se poursuit. L'armée russe revendique de nouvelles avancées dans la région stratégique de Pokrovsk, alors que l'isolement diplomatique de la Russie vient de connaître une nouvelle brèche. La Fédération internationale du judo va réintégrer les athlètes russes avec leur hymne et leur drapeau à l'occasion du tournoi d'Abu Dhabi qui commence demain. Comme d'autres athlètes, les judokas russes, avaient été contraints de concourir sous bannière neutre après l'invasion de l'Ukraine. La Fédération russe s'est félicitée d'une décision historique. Ils ont scié les barreaux de leurs cellules et utilisé des draps pour descendre. Le scénario est tellement simple qu'il en paraît incroyable. Deux détenus se sont évadés la nuit dernière de la prison de Dijon. Bonjour Thomas Nougaillon.
Bonjour Céline.
Vous vous trouvez justement devant cette maison d'arrêt.
Il était environ 7h ce matin lorsque les surveillants de la maison d'arrêt de Dijon se sont aperçus de cette double évasion. C'est au moment de l'appel que leur absence a été constatée. Dans deux cellules du quartier disciplinaire, les barreaux avaient été sciés. Ça fait des mois que les organisations syndicales dénoncent les livraisons par drone dans cette prison. Il y en a donc encore eu la nuit dernière. La maison d'arrêt est devenue un véritable aéroport pour drones, déplore même un syndicaliste. Il demande des moyens, des fouilles générales, d'autant que ce n'est pas la première fois que des scies sont retrouvées en cellule. Des moyens supplémentaires, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, en a annoncé justement la semaine dernière pour cette maison d'arrêt de Dijon, 6 millions d'euros qui doivent être investis dans le cadre d'un plan zéro portable. Au moment où l'on parle, policiers et gendarmes sont en train de procéder à des relevés avec des chiens. Quant aux deux évadés, l'un est âgé de 19 ans. Il était détenu dans le cadre d'une tentative d'assassinat en octobre 2024 à Montbéliard. Sur fond de trafic de drogue, l'autre âgé de 32 ans est mis en examen pour violence conjugale.
Merci Thomas Nougaillon de la rédaction d'ici Bourgogne, ex-France Bleu. Cette évasion survient quelques jours après celle d'un détenu du centre pénitentiaire de Rennes au cours d'une sortie avec d'autres prisonniers au Planétarium le directeur de l'établissement avait été aussitôt démis de ses fonctions par le garde des Sceaux et le détenu évadé est toujours recherché.
France Inter, le 13-14. Céline Aslo.
C'est aux portes d'un Moyen-Orient traversé par les conflits qu'il a choisi de faire son tout premier déplacement. Léon XIV est arrivé tout à l'heure en Turquie. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Le pape élu au mois de mai dernier n'avait jamais quitté le Vatican. Le voilà donc à Ankara où vous vous trouvez, première étape d'un voyage de 4 jours.
Et c'est une ville d'Ankara totalement indifférente à la venue du pape que nous avons traversée depuis l'aéroport pour rejoindre le palais présidentiel. Personne au bord de la route, pas de message de bienvenue particulier. Quelques drapeaux du Vatican sur les derniers hectomètres. Dans quelques minutes, le pape va prononcer son premier discours aux côtés de Recep Tayyip Erdogan. Comment défendre la liberté des chrétiens passablement bridée ici, sans froisser le président ? Discours en anglais, il n'y en aura aucun en italien lors de ce voyage. Est-ce que ce sera l'une des marques de fabrique du pape Léon ? Ce premier déplacement à l'étranger est aussi l'occasion de mieux connaître celui qui n'est pape que depuis un peu plus de 6 mois. Dans l'avion, ce matin, quand il est venu saluer les journalistes, on a senti la patte américaine.
To the Americans here, happy Thanksgiving.
Une bonne Thanksgiving et Léon a enchaîné en anglais sur les enjeux de ce voyage.
We hope to proclaim how
proclamer l'importance de la paix à travers le monde et inviter les gens à s'unir malgré les différences de croyances et de religion.
Different religions, different beliefs.
Après la rencontre avec Erdogan, direction Istanbul, où le pape passera la nuit. Ankara, Bruno Duvic, France Inter.
La Turquie qui est aussi très critiquée par les associations de défense des droits de l'homme pour sa répression à l'égard des opposants politiques et à l'égard de la presse. Hier, un journaliste turc très populaire, Fatih Altaylı, a été condamné à 4 années de prison pour menace envers le président, tandis que 4 autres reporters ont été relaxés aujourd'hui. Ils étaient accusés d'avoir pris part à une manifestation illégale alors qu'ils couvraient un mouvement de protestation. Des tours entières en feu, une immense fumée qui se dirige vers le ciel. Les images de l'incendie qui touche un complexe résidentiel à Hong Kong sont très impressionnantes. Et le bilan ne cesse de s'alourdir. 55 morts, 250 personnes encore portées disparues. Les pompiers luttent toujours pour maîtriser les flammes dans ces immeubles qui étaient en rénovation. Bonjour Dominique André.
Bonjour Céline.
Une enquête a été ouverte.
Oui, effectivement, 4000 personnes vivaient dans ces immeubles qui étaient en travaux. Les façades étaient recouvertes en fait d'échafaudages en bambou, comme on en voit souvent sur les chantiers de construction à Hong Kong, et des filets de protection ainsi que des bâches en plastique les recouvraient. La police soupçonne déjà que certains matériaux n'étaient pas conformes aux normes de sécurité, ce qui expliquerait la rapidité avec laquelle le feu s'est propagé. 3 cadres de l'entreprise de construction ont déjà été arrêtés pour grossière négligence. Une enquête anticorruption aussi a été lancée, ont annoncé les autorités locales.
Et des questions politiques se posent déjà, Dominique. Hein.
Oui, parce qu'il y a un retentissement vraiment énorme dans l'opinion publique. Hier déjà, Xi Jinping, le président chinois, était monté au créneau pour demander aux pompiers de déployer tous leurs efforts. Et aujourd'hui, c'est le porte-parole du ministère de la Défense à Pékin, Zhang Bin, qui répondait à un journaliste de la presse officielle chinoise qui lui demandait si l'armée pourrait aller sur le terrain et apporter son aide aux habitants. Voici ce qu'il a répondu.
La garnison de l'armée populaire de libération à Hong Kong suivra les ordres, exercera ses fonctions conformément à la loi et à la protection de Hong Kong.
On comprend que les autorités à Pékin suivent la situation de près parce que depuis hier, des chaînes humaines se sont constituées pour apporter de l'aide aux victimes. Et c'est la première fois qu'une telle mobilisation est observée dans l'ancienne colonie britannique depuis les manifestations contre le pouvoir central en 2019.
Merci Dominique André de la rédaction internationale. À Tahiti, ce sont des glissements de terrain qui ont enseveli 2 maisons. 7 personnes sont mortes selon un bilan donné par Emmanuel Macron. Il reste encore des disparus. Le village d'Afaiti dans l'est de l'île de Tahiti est touché depuis une semaine par de très fortes pluies. Et le chef de l'État souligne le soutien de la nation. Faut-il nationaliser ArcelorMittal et ses hauts fourneaux? Les députés vont se poser la question dans la journée en examinant une proposition de loi déposée par la France Insoumise dans le cadre de sa niche parlementaire pour sauver le site sidérurgique et pour empêcher un plan social. Des centaines de salariés sont d'ailleurs venus du Nord et de Moselle pour manifester devant l'Assemblée nationale. Vous vous trouvez, Sonia Gobry, bonjour.
Bonjour.
Et en attendant, les députés ont examiné un autre texte, toujours signé la France Insoumise, pour s'opposer à l'accord de libre-échange avec le Mercosur, résolution qui a été adoptée à l'unanimité.
Oui, il faut dire que les insoumis n'ont pas pris de risque. La défiance envers ce traité de libre-échange traverse tout l'hémicycle. À gauche comme à droite, les groupes politiques ont enchaîné les critiques. Concurrence déloyale pour les agriculteurs, recul environnemental, risque de voir arriver des produits traités avec des pesticides interdits en France. Alors le député insoumis Mathias Tavel a appelé tous ses collègues à envoyer un message clair à Emmanuel Macron alors qu'un vote des États membres est prévu mi-décembre.
La présidente allemande de la Commission européenne, Madame von der Leyen, veut passer tel un bulldozer. Alors, collègues, voici l'heure de vérité. Par-delà nos différences, c'est à nous qu'il revient désormais de faire entendre la voix d'une France insoumise en Europe pour faire que cet accord de libre-échange soit bloqué en mettant une pression maximale sur Monsieur Macron.
Mais dans l'hémicycle, beaucoup de bancs sont quasi déserts. Beaucoup rechignent à soutenir les insoumis, mais le Modem, Horizon et les Républicains ont voté pour cette résolution visant à bloquer l'accord du Mercosur. Les quelques députés Renaissance présents se sont eux abstenus. Ils pensent qu'il y a encore des marges de négociation, explique Nicole Lepay.
Notre groupe défend une autre approche. Reconnaître les risques, entendre les inquiétudes du monde agricole sans céder aux simplifications ni aux veto de principe. Laissons au gouvernement le temps d'obtenir de meilleures garanties pour nos agriculteurs.
Les parlementaires n'ont pas le pouvoir de contraindre le président de la République. Cette résolution est symbolique. Les insoumis s'apprêtent maintenant à mener ce qu'ils appellent leur grande bataille sur la nationalisation d'ArcelorMittal. On attend de grosses passes d'armes avec le Rassemblement national.
Sonia Gobry, merci. Avec Virginie Lorda en direct de l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, les sénateurs, eux, vont s'attaquer au projet de budget de l'État pour 2026. Les recettes, les dépenses avant un vote solennel prévu le 15 décembre. décembre. Il ne restera rien du budget tel que présenté par le gouvernement, promet Bruno Retailleau, le patron des Républicains. Car le Sénat, dit-il, va faire son travail. Et puis nos voisins aussi sont englués dans les problématiques budgétaires. On a parlé ces derniers jours de la Grande-Bretagne, de la Belgique. Nouvel exemple avec l'Espagne, où les députés ont rejeté le nouveau pacte budgétaire présenté par le gouvernement de Pedro Sanchez. Nouvel échec pour l'exécutif qui peine à faire passer ses textes dans un parlement très divisé. On parlait d'ArcelorMittal il y a un instant. Est-ce un cas représentatif? Les entreprises françaises sont-elles de plus en plus nombreuses à connaître des difficultés financières? C'est en tout cas ce que l'on peut imaginer en voyant ce chiffre publié par l'AGS, le dispositif de garantie des salaires, mécanisme de solidarité entre les entreprises. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
Et qui cette année s'apprête à verser un montant record.
Oui, on devrait atteindre à fin 2025 2,3 milliards d'euros d'arriérés de salaire ou d'indemnités licenciement versés contre 2,1 milliards l'an dernier, record historique pour ce régime créé en 1973 qui fonctionne avec des cotisations d'entreprise et qui évite à des milliers de salariés de se retrouver financièrement sur le carreau lorsque leur employeur en redressement ou liquidation judiciaire est à court de trésorerie. En cause, la conjoncture toujours très morose, hein, beaucoup de destruction d'emplois effectivement cette année. 85% de cette enveloppe concerne des entreprises de moins de 10 salariés. Le secteur du commerce, notamment de l'habillement, est très représenté depuis plusieurs années. Mais ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est l'arrivée de nouveaux gros dossiers, confirme Antonin Blancard, c'est le directeur général de l'AGS.
On a une augmentation très forte du nombre de salaires que l'on prend en charge dans le champ des métiers de l'industrie. Certaines activités comme l'industrie manufacturière, la chimie, la sidérurgie, la scierie.
Un secteur où le nombre de salariés et le niveau des salaires sont élevés. Fin octobre, 212 000 salariés bénéficiaient de cette garantie. L'association qui gère ce régime récupère chaque année a posteriori environ un tiers des sommes versées au moment de la cession des entreprises concernées.
Claire Chaudière, merci. Service économie de France Inter. Il a décidé de passer la nuit à l'internat pour partager le quotidien des élèves dont il a désormais la charge. Le ministre de l'Éducation nationale est en déplacement en Charente. Et après la nuit en dortoir, Édouard Geffrès s'est penché sur le sort des écoles rurales. Elles représentent 39% des écoles françaises. Mais les fermetures se multiplient, une soixantaine chaque année. Les parents, les élus donc s'inquiètent, car l'école est au cœur du lien social. Comme vous l'avez constaté, Arthur Fradin à Binzac, 453 habitants exactement. C'est près d'Angoulême.
La petite école située juste à côté de la mairie est ici installée au cœur du village depuis 1880. Mais le couperet est tombé, la classe unique de 21 élèves de CM1, CM2 doit fermer d'ici 2027 pour un regroupement dans un pôle de territoire à Chazelles, à 7 km.
Notre commune a déjà perdu tous les commerces, enfin il n'y en avait pas beaucoup mais on a tout perdu. C'était notre école qui était un peu le fleuron de la commune et puis là on la perd, je le déplore. Mais bon.
Le maire Jean-Pierre Bardoula se dit résigné avec un sentiment de gâchis car les résultats dans les petites structures sont très bon, précise cet enseignant pendant un échange avec le ministre.
Les résultats aux évaluations nationales, pratiquement sur toutes les compétences, on est au-dessus des moyennes de la circonscription et du niveau national. Le fait qu'on soit en double niveau, ça fait qu'on a une meilleure connaissance des élèves. On les accompagne pendant 2 ans, on peut les faire progresser davantage.
Édouard Geffrey tente bien d'apporter quelques réponses.
Sur l'école de Binzac, c'est certainement pas à moi d'avoir une opinion en 1h30 ou 2 heures. Qu'en revanche, on crée les conditions, y compris en termes de moyens humains pour que l'offre scolaire s'articule entre les différents bourgs. Ça, par contre, c'est ma responsabilité.
Pas de quoi rassurer le maire qui déplore en plus que le futur regroupement à Chazelles nécessite de gros travaux. Son mince espoir, la construction d'un nouveau lotissement dans sa commune qui pourrait ramener des nouveaux enfants et maintenir l'école ouverte.
Reportage d'Arthur Fradin à Binzac, en Charente. Cela fait des années que le projet est controversé, que les pros et les anti s'affrontent à coups de rapports et de décisions judiciaires. On vous révélait ce matin sur France Inter ce nouvel épisode dans le feuilleton de l'A69, le chantier de l'autoroute entre Toulouse et Castres grignote plus de terrain que ce qui était prévu, 10% de plus que ce qui avait été validé par l'État. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Les opposants au chantier ont donc l'intention de porter ces nouvelles informations en justice. Quelles pourraient être les suites?
Eh bien, dès ce matin, c'est un huissier de justice qui a toqué à la porte du siège social d'Atosca, le concessionnaire de l'autoroute à Puy-Laurence dans le Tarn. C'est l'avocate des opposants qui l'a mandaté pour demander les documents qui autorisent à utiliser des zones en dehors du périmètre initial du chantier. On ne connaît pas encore la réponse du concessionnaire. Ces éléments, en tout cas, serviront la plainte de l'avocate Alice Terrasse au parquet de Toulouse pour travaux sans autorisation et aussi potentiellement pour destruction d'espèces protégées. Certaines zones d'habitat d'espèces pourraient avoir été terrassées sans autorisation. Les images montrent clairement, par exemple, la destruction de 400 mètres de haies sur les communes d'Algance et La Croisille.
Est-ce qu'on sait si les responsables du chantier, les représentants de l'État étaient au courant?
Et c'est une des principales questions, Céline. Quand des travaux dépassent leur périmètre défini au départ, le maître d'ouvrage doit normalement saisir la préfecture, formuler ce qu'on appelle un porté à connaissance. Les services de l'État valident ou non ce dépassement. Et s'il est important, le préfet peut même publier un arrêté qui complète l'autorisation environnementale de départ. Atosca a-t-il saisi la préfecture? Les services de l'État ne nous ont pas encore répondu. Et sur ce point précis, le concessionnaire ne formule pas de réponse dans son mail envoyé hier. C'est aussi la question posée ce matin par l'huissier mandaté par les opposants.
Et cette fois, je vous remercie, Rémi Brancato, pour toutes ces précisions et cette enquête. À retrouver en détail, images à l'appui sur le site de France Inter. Et puisque l'on parle de projets destinés à désenclaver les territoires, disons un mot de la SNCF qui annonce à l'instant l'ouverture d'une liaison TGV entre Lyon et Bordeaux qui ne passera pas par le Massif central. L'ouverture est prévue mi-2027. Et nous allons maintenant pousser la porte de l'Institut Pasteur. Avec vous, Maria Melkurdi, bonjour.
Bonjour.
L'Institut Pasteur qui suit de près l'évolution de la grippe aviaire et qui étudie les risques de transmission à l'homme. Alors, aucun cas humain n'a été détecté en France, mais on dénombre un millier de cas à travers le monde, d'où le travail des experts au sein du Centre National de Référence Virus des Infections Respiratoires où vous avez pu vous rendre. Les autorités sanitaires, Mariam, d'autant plus vigilantes que nous sommes en automne et c'est la période de migration des oiseaux.
Oui, et ce qui préoccupe fortement les infectiologues, c'est que le virus de la grippe aviaire, le H5N1, a su s'adapter à de multiples espèces. Il se transmet désormais aux mammifères et surtout, vous l'avez dit, il peut affecter les hommes. Plus de 1000 cas recensés dans le monde, essentiellement en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis. Alors en France, la vigilance est haute. Marianne Ramex-Velti dirige le Centre national dédié aux infections respiratoires de l'Institut Pasteur.
Pour l'instant, on n'a pas eu de cas sur le territoire français, de cas d'infection humaine par ces virus H5, mais ça pourrait arriver puisqu'on est sur des carrefours migratoires, on a de la faune sauvage infectée, on a des foyers de volailles infectés, donc on surveille avec une grande précaution cette interface homme-animal qui pourrait présenter un risque avec des cas chez l'homme.
Et dans les laboratoires de l'Institut, les biologistes analysent donc les échantillons suspects qu'ils reçoivent. Vincent Hénouf, responsable adjoint du Centre national de référence virus des infections respiratoires.
Donc la personne vient de recevoir un échantillon susceptible d'être positif au H5N1. Cette personne va distribuer, si vous voulez, le prélèvement, c'est du liquide, en fin de compte, c'est un prélèvement nasopharyngé qui a été effectué dans un liquide de transport. Vous avez un écouvillon qui a été trempé dedans et donc il y a potentiellement du virus dans ce liquide.
Des échantillons comme celui-ci, l'Institut Pasteur en a reçu une centaine depuis le début de l'année.
Merci pour toutes ces précisions, Maria Melkurdi. Il est certes moins prestigieux que ses grands frères, le Goncourt, le Renaudot, le Fémina, mais il séduit de plus en plus les auteurs et puis les lecteurs. On le voit dans les chiffres de vente des lauréats, le Goncourt des lycéens a donc été dévoilé tout à l'heure. On vous retrouve Eliana Moriousef et cette année le prix littéraire récompense donc Natacha Apana. Coup double pour l'autrice de La Nuit au cœur.
Oui, coup triple même puisqu'elle a eu le prix Fémina et le Renaudot des lycéens. Et ce choix manifeste clairement que les jeunes ont été sensible au thème développé par Natacha Apana. Ce récit enquête sur deux féminicides auxquels s'ajoute la violence subie par l'autrice elle-même lorsqu'elle était jeune. Ce récit donc a trouvé un écho très fort chez les lycéens. C'est ce que nous dit Elsa Lelomier, porte-parole du jury, élève de terminale à Vence dans les Alpes-Maritimes.
C'est un sujet qui est très difficile et qui est vraiment d'actualité parce que c'est quelque chose qui se passe au quotidien depuis très longtemps et qui nous touche beaucoup. Et c'est une violence qui est une violence intime. Natacha Apana parle de terrorisme intime, quelque chose qui se passe au sein de nos foyers et qui est malgré tout plutôt tabou dans notre société.
Voilà, quelle éloquence cette jeune femme. Donc je lui ai demandé à Aude Lelomier de me parler des émotions qui l'ont traversée quand elle a découvert pour la première fois le livre de Natacha Apana.
Quand je l'ai découvert, j'ai été très émue par la beauté de son écriture. Puis ensuite, je me souviens avoir été particulièrement marquée par la scène de la mise à mort de Shahinez Daoud, la violence de cette mort qui est absolument saisissante, qui m'a beaucoup, beaucoup émue et qui m'a laissée sans voix, presque nauséeuse devant autant d'horreur.
Shahinez Daoud, donc on le rappelle, est la jeune femme brûlée vive en pleine rue par son mari en 2021 à Mérignac. Et c'est cette histoire, entendue à la radio, qui a conduit Natacha Apana à se lancer dans ce livre.
Mais ça donne envie, si ce n'est pas déjà fait, de lire donc La Nuit au cœur de Natacha Apana. Merci beaucoup, Iliana Mohan-Youssef, spécialiste littérature à la rédaction de France Inter. Vous avez peut-être prévu d'aller skier au cours de cet hiver. Sachez qu'il faudra laisser le paquet de cigarettes au chalet puisque les domaines skiables, eux aussi, sont devenus des espaces sans tabac en raison du décret publié au mois de juin dernier. On avait beaucoup parlé à l'époque des jardins publics, des plages, mais les stations de ski aussi sont concernées. Interdit de fumer dans les files d'attente, sur les remontées mécaniques et sur les pistes. Et le collectif France Montagne prépare donc les esprits avec des slogans humoristiques, Isabelle Gaudin.
On vous tend des perches pour arrêter, allonger votre espérance de ski. L'idée de France Montagne est de faire passer le message avec un peu d'humour. Vincent Gey, son directeur.
On a décidé justement de mettre à disposition cette campagne pour uniformiser le message sous forme humoristique à destination de notre clientèle. Et donc on reprécise que l'interdiction du décret de fumer s'élargit en fait, parce que c'était déjà interdit de fumer sur les remontées mécaniques. Bizarrement, c'était même le seul endroit presque où on fumait. Et ce décret, il a été élargi maintenant, c'est tout le périmètre de la piste de ski.
Au Gey, la station était la première en Europe à interdire la cigarette sur son domaine il y a 3 ans. Une expérimentation qui est partie d'un constat.
Constat qu'on retrouvait beaucoup trop de mégots en fin de saison, à peu près 3000 avant qu'on mette en place notre initiative. Et donc voilà, on était un peu précurseur sur ce domaine skiable sans tabac.
Benjamin Munier, le directeur exécutif de la station.
On s'attendait à prendre des coups, mais en fait, ça s'était bien passé et c'était compréhensible à la fois pour les non-fumeurs comme pour les fumeurs.
Plus de pause cigarette, en attendant son télésiège, ça ne pose pas de problème à Camille, ce chambérien skieur et fumeur.
Pas fumer quand on est au ski ou dans des loisirs, ça me pose pas trop de problèmes. Pour l'environnement, il faut quand même prendre des mesures dans ce sens-là, quoi.
La cigarette, première source de déchets en montagne en 2024, près de 58 000 mégots ont été ramassés, selon Mountain Riders.
Isabelle Gaudin de la rédaction d'Ici, Pays de Savoie. Et puis si vous vous projetez déjà sur les vacances d'été, plutôt que sur les vacances au ski, sachez que le festival Rock en Seine vient de dévoiler sa programmation. The Black Keys, Interpol, Franz Ferdinand vont faire partie des têtes d'affiche aux côtés de The Cure ou encore de Nick Cave à la prochaine édition du festival qui aura lieu comme chaque année à la fin du mois d'août au domaine national de Saint-Cloud près de Paris. 13h27, restez avec nous sur France Inter. Dans un instant, on va retrouver les prévisions météo de Céline Dacosta qui va nous dire que le temps est encore bien gris et bien froid. On va ensuite accueillir notre invitée, la réalisatrice Hélène Lamtrong, lauréate du prix Albert Londres et dont le nouveau film s'intéresse au travail des journalistes à Gaza, journalistes palestiniens qui documentent la guerre dans leur territoire depuis le 7 octobre dans des conditions très difficiles. Et j'attends d'ailleurs vos questions 01 45 24 7000. Et puis il y a aussi, vous le savez, l'appli Radio France. Dans la fabrique des clarinettes, c'est notre feuilleton cette semaine. Une semaine dans leur vie dans l'entreprise Buffet Crampon, leader mondial des clarinettes, entreprise familiale surtout. On va le voir dans l'épisode du jour. 13h50, c'est la France et c'est avec vous, Marie-Luce Ribaud. Bonjour.
Bonjour.
Du quotidien Sud-Ouest. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la famille Troisgros, puisque le petit-fils César est sacré meilleur cuisinier de l'année. Alors comment on fait cette famille pour régner ainsi sur la gastronomie française?
C'est le mystère que nous allons tenter de percer, Céline. Levant quand même un coin du voile, il semble que les Troisgros aient trouvé un élixir, celui de l'audace.
On saura tout sur la recette avec vous, Marie-Luce. Et puis un nouveau coup de cœur de Stéphane Escher, qui passe la semaine avec nous sur France Inter. Aujourd'hui, il choisit In the Ghetto d'Elvis Presley.
J'étais un teddy boy, pas du tout un punk, et j'ai repris la version de Nick Cave, et je crois que c'était la première chanson que j'ai jouée aux premières trances musicales que j'ai fait.
Une chanson qu'il va revisiter pour nous aussi tout à l'heure, et ça nous emmènera jusqu'à 14h. À tout de suite.
France Inter présente Le Code a changé, Xavier Delaporte.
L'internet russe s'est transformé en goulag numérique pour sa population et en arme de guerre pour le pouvoir, mais est-ce le seul?
Le code.
Et si, au nom de la souveraineté numérique, l'internet mondial était en train d'exploser? Ce qu'on va raconter, c'est la fin d'une utopie.
Le code a changé. Le podcast de nos révolutions digitales.
Abonnez-vous sur l'appli Radio France.
You
Boston, ça y est, on a la solution contre la hausse des prix. Pas besoin d'aller sur la Lune pour protéger son pouvoir d'achat.
Découvrez Bleu Blanc Paye, les e-cartes qui protègent votre pouvoir d'achat. Bleu Blanc Paye, votre garantie anti-inflation. Rendez-vous sur bleublanc-paye.fr. Remboursement sur la base du taux d'inflation INSEE-IPC activable uniquement le jour anniversaire de la date de votre premier achat d'e-carte. Voir conditions sur bleublanc-paye.fr.
On a beau dire, Omiris, question alarme et télésurveillance, chapeau.
Et à ce prix-là, matériel, maintenance, agent de sécurité et appel aux forces de l'ordre, tout est compris.
Mais alors, tout le monde va s'équiper?
Ça, avec Omiris, on n'a pas fini de courir.
Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
13h30, la météo.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Et l'ambiance est encore bien grise sur le nord et sur l'ouest du pays.
Oui, du nord de l'Aquitaine jusqu'aux Ardennes et à la Lorraine, en passant par la région centre, l'Île-de-France, un ciel couvert avec de faibles averses ou alors des petites bruines, une perturbation qui va progresser lentement cet après-midi vers l'est. Et puis, une nouvelle perturbation pluvieuse arrivera en fin d'après-midi par la Bretagne et les côtes de la Manche, avec là des averses qui seront un petit peu plus marquées. Pour la moitié sud, autre ambiance, avec un ciel calme et largement ensoleillé. C'est le cas également sur le flanc est. On a juste peut-être un petit peu plus de nuages aux abords de la perturbation, mais globalement, l'après-midi sera très lumineuse avec beaucoup de vent près de la Méditerranée et un ciel encore perturbé en revanche pour l'est de la Corse où là on a encore quelques averses. Et
qu'est-ce que ça donne pour les températures?
Elles plafonnent selon Météo France entre 3 et 6 degrés sur le nord-est, de la Lorraine à la Bourgogne. Là, on reste 1 à 3 degrés sous les normales de saison, 7 à 11 degrés pour les autres régions, jusqu'à 12, 15 degrés sur le nord-ouest et près de la Méditerranée.
Prévision signée Céline Dacosta, merci.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
C'est une guerre qu'il raconte de l'intérieur, avec immensément d'angoisse et aussi un grand sentiment de solitude. À Gaza, là où la presse internationale est interdite d'accès depuis le 7 octobre 2023, seuls les journalistes palestiniens peuvent témoigner, peuvent documenter le conflit et ses conséquences dans des conditions de vie et de travail particulièrement difficiles. C'est ce que raconte ce film Inside Gaza, à voir sur la plateforme Arte.tv et qui donne la parole à 4 journalistes qui travaillent pour l'agence France Presse.
J'ai travaillé en dehors de Gaza, notamment en Égypte, en Libye, au Soudan, en Arabie Saoudite et dans différents pays lors des révolutions arabes. Quand on est reporter de guerre, au milieu de sa région, de son pays, de ses voisins, de sa famille et de son peuple, c'est complètement différent de quand on couvre d'autres conflits. Ici, tu crains pour tes propres enfants et ta propre famille.
Bonjour Hélène Amtrong.
Bonjour.
C'est vous qui avez réalisé ce film, où l'on peut voir aussi les images que ces journalistes ont tournées durant les premiers mois de la guerre, puisque tous vos témoins ont pu finalement quitter Gaza au cours de l'année dernière, on va y revenir. D'abord, pourquoi ce film? Pourquoi s'intéresser finalement à la manière dont ils ont travaillé? Est-ce que c'était pour réparer une forme d'oubli?
Alors, faut quand même savoir que ce film, c'est un projet qui a 2 ans, qui a été lancé en novembre 2023 par Yann Olivier, qui est le producteur de ce film, qui est aussi journaliste à l'AFP, donc l'agence France Presse, qui coproduit ce documentaire et qui a vu ses bureaux bombardés par l'armée israélienne en novembre 2023. Et c'est vrai que les journalistes de l'AFP, mais nous tous, on s'est sentis, quand je dis nous tous, c'est les journalistes occidentaux, en tout cas, interdits de rentrer sur ce territoire. On s'est sentis très impuissants, on savait pas comment raconter ce que vivaient nos confrères. Et puis, on avait évidemment une très forte empathie parce que on savait ce qu'ils vivaient et on savait à quel point leur travail était important. Donc, c'est vrai que face à l'impossibilité d'exercer notre métier de reporter comme on devrait pouvoir le faire, c'est-à-dire sur le terrain, nous-mêmes, on ne pouvait pas faire autrement que de s'appuyer sur le travail de nos confrères palestiniens. Et je trouvais que c'était important de rappeler que non seulement ils faisaient partie de la même famille du journalisme que nous, d'avoir un peu de confraternité envers eux, et de rappeler que leur travail était essentiel. Essentiel,
essentiel, mais d'autant plus difficile, on l'entendait dans l'extrait, qu'on est partie prenante aussi, parce que ces journalistes sont aussi des hommes, des femmes, des mères, des pères, des frères, des sœurs, et qu'ils ont peur pour leurs proches, et qu'ils travaillent dans un grand sentiment de solitude aussi. Moi, c'est ce qui m'a marqué dans les témoignages que vous avez recueillis.
Oui, c'est vrai que les journalistes palestiniens ont vécu cette solitude parce que normalement, quand il y a une guerre, la presse du monde entier débarque et puis vient prêter main forte aux journalistes locaux. Là, ça n'est pas arrivé. Et leur sentiment de solitude était d'autant plus fort qu'ils étaient, coincés, en fait. Ils étaient faits comme des rats, quelque part. Ils ne pouvaient pas se mettre à l'abri. Donc c'est vrai qu'il y a cette espèce de choix cornélien auquel ils étaient confrontés au quotidien. Travailler quand même, documenter quand même et en même temps essayer de trouver un abri, mettre ses enfants en sécurité, trouver à manger, se mettre à l'abri du froid. Et ça, c'est une situation qui est difficilement tenable pendant quelques jours, mais alors pendant des semaines et puis des mois, c'est inhumain.
Parce qu'ils sont sortis plus de 200 jours, je crois, après le début de la guerre. Mais on va y revenir juste sur la manière dont ils ont travaillé, justement, dans les premiers mois de cette guerre. Ils avaient le sentiment parfois que c'était essentiel, oui, mais que ça ne changeait pas le cours des choses. Il y avait un sentiment d'impuissance aussi.
Oui, alors ce film qui s'appelle Inside Gaza, on a commencé à beaucoup le projeter en public, on a fait pas mal de projections et à chaque fois le public dit c'est incroyable, les images de ce film on les avait pas vues, c'est fou. Et moi j'aime beaucoup souligner que 98% des images de ce film étaient disponibles sur le fil de l'AFP, puisque les protagonistes du film sont des journalistes de l'AFP, des vidéastes de l'AFP, des photographes de l'AFP, donc tout ce qu'il y a dans le film c'est leur travail. Et donc c'est vrai que savoir que ces images étaient disponibles dès le premier jour et qu'elles ont été si peu vues.
Et elles sont incroyables, ces images. C'est vrai, quand on voit le film, on se dit, mais c'est dingue, on a l'impression de n'avoir jamais vu la guerre comme ça. Il y a des images aériennes qui montrent l'ampleur des dégâts. Enfin, c'est vrai que c'est des images qui sont d'une grande qualité, en plus.
Bah, il faut savoir que les journalistes de l'AFP, c'est pas n'importe quel journaliste. Ce sont des... Rentrer à l'AFP, c'est pas facile. Les exigences de l'AFP sont très élevées, en termes journalistiques, évidemment, en termes de rigueur, puis aussi en termes artistiques. Un photographe, pour que ces photos soient achetées aux quatre coins du monde par les plus grands médias du monde, faut qu'ils soient doués, et ils sont très doués.
Et c'est des images pourtant qui sont contestées à l'extérieur par l'armée israélienne, c'est ce que racontent certains des journalistes dans votre film, mais c'est un travail aussi qui est contesté parfois à l'intérieur de la bande de Gaza. Je voudrais qu'on écoute justement l'un de vos témoins qui raconte finalement que le travail n'est pas toujours très bien compris au sein de la population de l'enclave palestinienne.
Les gens pensaient que la presse était un moyen pour faire pression sur Israël, pour mettre fin ou même atténuer le bain de sang. Mais à force, les gens ont fini par nous traiter de menteurs. Vous êtes des bons à rien. Où est la presse? La presse est vide. Tout ce qu'elle dit dans le monde est faux. Les gens ne croient plus du tout en la presse. Ils ne font plus confiance qu'aux réseaux sociaux. C'est dangereux pour les générations à venir. Quelles conséquences cela aura-t-il sur le futur?
Ils font pas confiance à la presse, y compris aux journalistes palestiniens qui sont à côté de chez eux. Comment vous l'expliquez ?
Je crois que les journalistes palestiniens font face aux mêmes problématiques que les nôtres, quelque part. Nous aussi, on a un problème de défiance vis-à-vis du public. Et je crois que la question que pose en fait le travail des journalistes palestiniens à Gaza, c'est à quoi ça sert le journalisme, à quoi ça sert les reporters sur le terrain, à quoi ça sert les photos. Et c'est vrai qu'il y a cette idée qu'une photo très forte peut faire changer les mentalités, peut faire basculer un conflit.
Parce qu'on l'a vu dans d'autres conflits.
Dans d'autres conflits. Et là, les gens, ils sont dans une survie extrême, dans des conditions très dures. Et c'est vrai que répondre à un journaliste, c'est toujours c'est un engagement. Et c'est vrai que quand ils ont fait ça pendant une fois, deux fois, dix fois, et qu'ils se disent ça ne sert à rien, les journalistes les embêtent quelque part. Et puis ils se disent, mais à quoi ça sert de répondre à un journaliste, de raconter ma vie, de raconter mes malheurs, si ça ne change rien?
Je voudrais qu'on aille au standard de France Inter, où nous attend Yves. Bonjour Yves B, bienvenue.
Oui, bonjour.
Je vous laisse poser votre question.
Je vous écoutais, là, justement, parce qu'au départ, ma question, c'était pourquoi l'État israélien, l'armée israélienne, a interdit à tout journaliste étranger ou même israélien d'être présent pendant l'offensive et pendant le génocide en cours. Et puis en fait, vous venez de répondre un peu, parce que ils veulent éliminer tous les témoins. Déjà, il y a eu 300 journalistes qui ont été tués jusqu'à présent sur place. Et donc, mais l'important, c'est quand même que ces journalistes témoignent.
Oui.
Témoignent par des photos, témoignent par des récits. Et je n'ai pas vu le documentaire Inside Gaza, mais je le verrai pas, parce que il faudrait qu'il soit diffusé au cinéma. Apparemment, il ne le sera pas.
Mais il sera diffusé sur Arte, en prime time, quand même.
Sur Arte, oui, mais je n'ai pas la télé.
Merci, Yves, en tout cas, pour votre témoignage.
Il y a d'autres films qui racontent ce qui se passe. Il y a La Voix de Hind, malheureusement, La Future Soul, Work, qui sont aussi du travail de journalistes qui documentent. Oui. Le génocide.
Merci Yves pour votre intervention. C'est vrai que sur cette question, peut-être on peut le rappeler, Hélène Lamtronc, vous avez sans doute tenté, comme bien d'autres journalistes occidentaux, d'entrer dans la bande de Gaza. Quelle réponse on vous apporte en fait ?
Alors la réponse, c'est que l'armée israélienne dit on ne peut pas assurer la sécurité des journalistes sur place, donc ils ne rentrent pas. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai aussi envie de rappeler au public. La guerre, c'est dangereux. Les reporters de guerre qui choisissent ce métier le font en conscience. Et évidemment, c'est pas la première guerre dangereuse. Des journalistes meurent sur le terrain tous les jours, en Ukraine, au Soudan. Et c'est pas une assez bonne raison que ce soit dangereux, parce que finalement, c'est à ça que ça sert le journalisme de guerre. Tous les journalistes ne sont pas des reporters de guerre, mais ceux qui choisissent de l'être, ceux qui veulent aller sur les terrains dangereux, le font en conscience, sont conscients des dangers, ne veulent évidemment pas mourir dans l'exercice de leur métier, mais c'est un risque qu'ils acceptent de prendre. Donc c'est pas qu'une autorité décide à la place finalement de la presse qu'est-ce qui vaut d'être couvert ou pas, c'est très problématique.
Alors il y a ceux qui voudraient rentrer, puis il y a ceux qui se posent la question de faut-il rester. Ça vous le racontez bien dans le film. On voit que l'agence France Presse a tout fait très vite pour essayer de sortir les familles de ces journalistes qui ont pu être mises à l'abri au bout de quelques mois. Et il y a la question de, est-ce qu'on a envie de partir aussi quand on est journaliste? Est-ce qu'on reste? Je voudrais qu'on écoute l'une des journalistes de votre film, Mayagi, j'espère que je prononce bien son nom, qui raconte le départ de son fils qui est âgé d'une dizaine d'années.
Je voulais partir avec mon fils. C'est normal. N'importe qui voudrait partir dans une situation aussi violente et effrayante. Mais en tant que journaliste, je voulais rester. J'avais conscience de mon devoir. Il fallait faire le boulot. Je ne pouvais pas partir à ce moment-là.
C'est un dilemme pour eux, finalement.
Ouais, c'est un dilemme pour eux. Et puis je crois que le public a besoin, peut-être il faut lui rappeler. Moi, en ce moment, je suis dans une phase de ma vie professionnelle où j'ai envie de parler de mon métier. J'ai envie de raconter ce que c'est le journalisme et pourquoi on choisit ce métier. C'est pas un métier comme un autre. Et évidemment qu'on a une notion de devoir. Et ça... c'est peut-être quelque chose que le public a du mal à comprendre. Ça ne veut pas dire que Maï préfère son métier à son fils, mais il y a des circonstances exceptionnelles, une guerre chez soi, qui font qu'on a le sentiment, en tout cas ils ont le sentiment, que c'est tellement important que des traces restent, que les faits, que le réel finalement subsiste à travers des photos, des images, des informations, qui sont prêts à prendre ce risque-là.
Alors ils sont sortis finalement, ces quatre journalistes, je le disais tout à l'heure, ils sont à Londres, à Chypre, en Égypte, ils continuent à travailler d'ailleurs pour l'agence France Presse.
Tout à fait.
Mais on sent dans les témoignages qui ressortent de ce documentaire dans lequel vous leur donnez la parole que la vie normale elle est pas possible finalement, que leur tête elle est toujours à Gaza.
Ah, non seulement leur tête est toujours à Gaza, mais les gens qu'ils aiment sont toujours à Gaza. Ils ont pu sortir avec leur famille nucléaire, quelque part, leurs épouses, leurs maris, leurs enfants. Mais leurs parents sont toujours à Gaza, leurs voisins, et puis tous leurs souvenirs, toute leur vie. Maï Yagi, qui est une fille qui a mon âge, me disait, c'est fou, je venais de terminer de rembourser le prêt de mon appartement. Ça faisait 20 ans que je remboursais tous les mois une banque pour devenir propriétaire de mon appartement. Son appartement a été réduit en cendres, comme tous les appartements de tous les journalistes de l'équipe de l'AFP. Ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de souvenirs, ils ont même leur diplôme. Ils se disent, j'ai plus mon diplôme. Ils n'ont plus rien. Donc c'est vrai que ce qui est très dur, c'est évidemment de se sentir encore plus impuissant à l'extérieur qu'ils ne se sentaient impuissants quand ils étaient à l'intérieur. C'est aussi l'impossibilité de se projeter dans un après. Tout ce qu'ils ont connu n'existe plus.
Et il y a ceux qui restent aussi quand même malgré tout, ceux qui sont pigistes souvent et qui continuent quand même à essayer d'informer sur ce qui se passe, qui sont l'une des seules sources d'information que l'on a à l'intérieur de l'enclave palestinienne. Est-ce qu'on sait comment ils travaillent, dans quelles conditions ils travaillent aujourd'hui ?
Dans des conditions encore plus dures que celles qui étaient que celles de l'équipe de l'AFP permanente qui est sortie et qui témoigne dans le film. tout est plus dur encore qu'il y a un an. La faim est plus sévère encore. Cet été, l'AFP a connu un épisode tragique lors duquel une partie de l'équipe a dit « on ne peut pas aller travailler aujourd'hui, on ne peut plus marcher, j'arrive pas à me lever, j'ai trop faim ». On a des journalistes de l'AFP, pigistes certes, mais qui travaillent pour l'AFP avec la même rigueur, avec la même exigence depuis des années, qui souffraient de la faim. Et moi, je suis vraiment très admirative de ces confrères et de ces consoeurs palestiniens qui continuent, alors, dans ces conditions-là, d'exercer leur métier. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas comment nous, on ferait dans ces circonstances-là.
Vous le présentez dans des festivals, dans des projections publiques. Finalement, quel est l'accueil qui lui est fait à votre film, Hélène ?
Alors, j'appréhendais beaucoup, on va pas se mentir, comme j'appréhendais un petit peu d'être à l'antenne de France Inter.
Est-ce que c'est un point de vue sur les journalistes gazaouis que vous encadrez évidemment par des images des otages du 7 octobre, etc. Mais c'est un point de vue.
Alors c'est un point de vue, oui et non. J'ai envie de dire que moi je suis journaliste aussi et que c'était le seul moyen de raconter ce qui se passait à l'intérieur. C'est pas parce que une autorité, un pays interdit à la presse de rentrer que la presse doit dire bon ok on n'en parle pas. Non, on a fait chacun comme on pouvait. Notre métier, moi à ma place, modestement, c'était de faire un film en donnant la parole à des confrères dont je mesure en tout cas le sérieux. Leur sérieux n'a jamais été mis en doute avant le 7 octobre 2023. Il n'y a pas de raison qu'on mette en doute leur travail aujourd'hui. Et donc pour répondre à votre question sur comment ce film est reçu, plutôt bien. Et aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas eu une mauvaise expérience avec le public.
Inside Gaza, qui sera donc diffusé sur Arte pour nos auditeurs qui ont la télé mardi prochain, mais que l'on peut voir bien sûr sur la plateforme arte.tv. Merci beaucoup, Hélène Lamtronc, d'être venue nous en parler dans le studio du 13-14. Tout de suite, le feuilleton. Et c'est dans une entreprise de fabrication de clarinettes que nous passons la semaine. Le groupe Buffet Crampon, leader mondial du secteur, est installé à Magnanville, dans les Yvelines. Alors, on a visité ces derniers jours les ateliers. Direction aujourd'hui la réception de l'entreprise où travaille Amélie, chargée d'accueil. Et pour elle, Buffet Crampon, eh bien, c'est avant tout une histoire de famille.
Buffet Crampon, bonjour. Oui. Pour une révision, de clarinette ou de basson? Oui, ne quittez pas. Votre nom, s'il vous plaît? Très bien, merci. Ne quittez pas, je vous passe la personne.
Alors, je m'appelle Amélie Chevalier, j'ai 37 ans et je suis gestionnaire d'accueil chez Buffet Crampon. Ça fait 11 ans que je suis chez Buffet Crampon. Je suis rentrée par le biais de mon papa, qui était responsable à l'électrolyse ici. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'il est parti à la retraite. Du coup, il a eu l'opportunité de me faire rentrer. J'ai commencé en intérim et 11 ans après, je suis toujours ici.
Vous n'êtes pas la seule de votre famille ici?
Et non, j'ai mon frère qui est finisseur instruments spéciaux et mon cousin qui est...
Au chaudronnage.
Voilà, au chaudronnage.
Romain et Cyril.
Exactement. Il y avait une de mes tantes qui travaillait également aussi, une des sœurs de mon père. Beaucoup disent, mais en fait, c'est plus Buffet Crampon, mais c'est Buffet Chevalier pour rigoler. Le C est associé à Chevalier pour la petite blague, quoi.
Vous êtes le premier visage qu'on voit quand on arrive chez Buffet Crampon.
Exactement. Donc c'est vrai que je vois beaucoup de monde, donc c'est ça qui me plaît aussi dans ce métier. Après, y a l'accueil des musiciens, donc les musiciens qui viennent d'un peu des quatre coins du monde. Donc ça aussi, c'est super, mettre des noms sur des visages, parce qu'à l'époque, j'ai travaillé en tant qu'opératrice packaging. Donc je m'occupais de tout ce qui est commande. Donc j'avais les noms des musiciens, tout ça, mais pas les visages. Donc aujourd'hui, je peux voir toutes ces personnes et c'est super. Enfin, ça crée des petits liens.
Et vous, la musique classique, la clarinette, honnêtement?
J'en écoute pas à la maison, j'en entends assez la journée, quand on a des choix musiciens donc, qui viennent tester. J'ai essayé de jouer de la clarinette et il faut se le dire, c'est vraiment pas évident. Mais c'est vrai que quand on connaît ce qui s'y fait chez Buffet Crampon, maintenant je vous donne un exemple, si je vais voir un concert ou autre, on repère le son de la clarinette. Et c'est vrai qu'on a ce petit réflexe de regarder, c'est quelle marque, c'est quelle gamme de clarinette. Et un jour, je regardais Walking Dead, la série Walking Dead, et il y a un épisode dans je ne sais plus quelle saison, il y a l'acteur principal Rick qui se filme face caméra, et en fait derrière lui, il y a une clarinette qui est posée. J'ai mis pause, j'ai zoomé, et là, c'était une clarinette Buffet Crampon. C'est très drôle. Et du coup, on est fiers. Enfin, on se dit que c'est dingue, quoi, de voir dans une série une clarinette Buffet Crampon. Et ce qui est drôle pour la petite anecdote, c'est que beaucoup de personnes qui vivent dans la région mantaise ou dans les alentours ne savent pas qu'une grande entreprise comme celle-ci est située ici à Mantes-la-Ville. Enfin, c'est tellement mondial, c'est mondialement connu que c'est vrai qu'on a cette fierté de dire mais vous connaissez pas Buffet Crampon, on fait telle ou telle chose. Et c'est vrai que quand on développe un peu plus et que les personnes se rendent compte du travail qui est fait ici, ils sont surpris quoi. Donc c'est cette petite fierté de se dire. Oui, bah, j'y travaille, on fait de beaux instruments de musique et donc c'est plaisant.
Et suite et fin demain de notre feuilleton signé Ajra Mohamed.
France Inter. Le 13-14.
13h50, c'est la France et c'est la France à table le jeudi avec vous, Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Alors on va parler de la célèbre famille Troigos. Troigos, on connaît les aïeux, Pierre et Jean, on connaît le fils, Michel. Voici donc César, le petit-fils, qui vient d'être sacré cuisinier de l'année par le Goemio. C'est vrai que c'est une incroyable dynastie, Marie-Luce, hein.
Oui, et comment est-ce possible de traverser le temps, de se réinventer et de demeurer toujours en haut de l'affiche? C'est le mystère de cette famille Troigos, devenue l'une des plus célèbres du monde de la gastronomie. Une famille particulière avec son berceau à Roanne, dans la Loire. Ses quatre générations qui se sont succédées, ses personnalités fortes, visionnaires et paradoxalement plutôt discrètes. Cette reconnaissance me fait du bien, elle construit ma confiance à vous César. Mais je ne fais pas la course ni ne recherche la lumière. Ce n'est pas dans mon tempérament. En revanche, je savoure ce plaisir quotidien et immédiat quand les clients viennent me dire qu'ils ont apprécié leur repas.
Alors comment César gère-t-il le poids de son histoire ?
Cela mérite d'abord qu'on la raconte brièvement. En 1930, il y a bientôt 100 ans, ses arrière-grands-parents ouvrent un hôtel-restaurant à Roanne. Sur cette Nationale 7, la route des vacances et des congés payés, l'établissement devient une halte réputée. Les fils Jean et Pierre n'auront pas le choix, ils seront cuisiniers. Mais quels cuisiniers ! Ils font partie de cette petite bande indocile avec Michel Guérard, Alain Saint-Dérins ou encore Alain Chapelle à révolutionner la gastronomie française dans les années 60. Michel, fils de Pierre, veut voir du pays. Mais le décès brutal de son oncle Jean le cloue à Roanne. L'ombre de ses aïeux qui ont su renverser la table et conquérir 3 étoiles Michelin sera souvent pesante. Mais dans les années 90, son talent explose. Indiscutablement, il s'est fait un prénom. Depuis, on a abandonné le vieux restaurant en face de la gare de Roanne. La famille Troigos a migré dans la campagne, à 8 km de là. C'est ici, dans un palais de nature et de verre, qu'à son tour Michel a passé le témoin à César. J'ai la chance que mon père ait analysé son parcours pour me transmettre les rênes de la plus douce des façons.
Et qu'est-ce qui relie Marie-Luce cette famille ?
L'audace, instinctive chez le grand-père et son frère, vitale chez le père et le fils. Et il faut bien en parler, il y a ce plat inventé par Jean et Pierre, le saumon à l'oseille. Longtemps, on a fait des kilomètres pour le savourer. Le fils est devenu Michel en le bannissant de la carte et en le réhabilitant quand il a trouvé une forme de paix. César n'en fait pas un totem, mais reconnaît qu'il a insufflé à Roanne un état d'esprit, celui de la cuisine de l'instant. Car ce saumon, Céline, a ceci de magique qu'il est cuit et servi à la seconde près pour atteindre la perfection. Le nouvel enfant prodige de la dynastie Troigos se sent libre. Son credo est de proposer une cuisine à la fois pure, lisible, mais qui garde ses secrets. À quoi d'ailleurs serviraient les étoilés sans cette part de mystère ?
Mais c'est donc parti pour une recette 3 étoiles.
Oui, alors on propose souvent des recettes bon marché, mais petite exception avec celle de César, qu'on gardera sous le coude pour les fêtes.
Allez, c'est parti.
Voici une association détonnante d'un produit de luxe avec un fruit du pauvre. Pour l'équivalent d'une assiette, faites cuire dans l'eau 6 châtaignes et épluchez-les. Coupez-les en 4 ou 6 et faites-les croustiller dans une poêle. Frottez une truffe parfumée entre vos doigts pour créer des brisures et parsemez les châtaignes avec un peu de sel et de poivre. Déposez l'ensemble sur une assiette bien chaude et ajoutez en suspension 3 ou 4 copeaux de beurre en petites coquilles. Ce beurre, ces châtaignes et la truffe émiettée vont fondre ensemble délicieusement. César Troigos a un penchant pour l'acidité et l'amertume, mais visiblement, il sait aussi être d'humeur suave.
Mais c'est vrai que c'est appétissant. Merci beaucoup Marie-Luce Ribaud du quotidien Sud-Ouest. De C'est la France à C'est une chanson et c'est toujours avec Stéphane Escher que nous passons la semaine. Carte blanche au chanteur suisse qui partage ses coups de cœur et qui les revisite aussi à sa façon. Aujourd'hui, c'est un classique du rock américain qu'il a choisi pour les auditeurs de France Inter.
Bonjour, c'est Stéphane Escher. Cette semaine, je parle de mes madeleines musicale. Et une grande madeleine, c'est un mélange de deux choses. Est-ce que vous êtes prêts? 1. Elvis Presley. 2. Nick Cave. J'ai aimé pas trop Elvis Presley. Je suis vieux, mais pas si vieux, mesdames, messieurs. Et Nick Cave a fait une très, très, très belle version de In the Ghetto. As the snow flies on a cold and gray Chicago morn, a poor little baby child is born. Et c'est là que je repris pour moi, dans mon spectacle de mes débuts où je suis tout seul avec des boîtes à rythme, des synthés, une guitare Gretsch. Et j'ai vraiment la tête d'un rockabilly, quoi. J'étais un teddy boy et pas du tout un punk. Et j'ai repris la version de Nick Cave. Et je crois que c'était la première chanson que je jouais aux premières trans musicales que j'ai fait. Et l'histoire aussi, le cercle que cette chanson fait, avec un petit enfant qui a faim, qui grandit et qui cherche à manger où il le voit et qui est abattu pendant la prochaine mère et enceinte d'un enfant. Bref, chanson triste. Et les chansons tristes, c'est plus facile à les chanter. Je vais vous la faire là. Écoutez bien. Okay, let's go.
In the Ghetto d'Elvis Presley dans une version inédite proposée par Stéphane Escher que l'on va retrouver demain bien sûr pour sa carte blanche. Dans un instant, Stéphanie Duncan au fil de l'histoire.